Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, V comme Vidor, King Vidor, un auteur américain à Hollywood, avec Jean-François Buret, Françoise Zamour et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Carrière extrêmement longue que celle de King Vidor, de ses premiers essais cinématographiques en 1913 avec la scène inaugurale, on en reparlera, d'un défilé militaire jusqu'en 1980 et ce documentaire tourné quasiment seul, la métaphore, au milieu 56 longs métrages dont la moitié de muets qui recouvrent presque tous les genres, du polar au mélodrame, du western au film de guerre, du film social à la grande fresque en costume, et rend à première vue inclassable ce cinéaste prolifique parangon du classicisme hollywoodien. Je pense que la perfection qu'on peut atteindre dans un film commercial est plus intéressante, disait-il, je dois dire que les films commerciaux où je me suis exprimé personnellement ont été les plus satisfaisants, rajoutait-il, comme pour brouiller un peu plus l'image de celui qui, pourtant, avait été le premier à se poser comme auteur de ses œuvres et qui plus est un auteur purement américain et non importé d'Europe comme Chaplin, Stroheim, Murnau ou Lubitsch. Car dans tous ses films, de l'optimisme des débuts à la noirceur de la fin, ce grand poète visionnaire, épique et lyrique de la démesure a développé des thématiques et des obsessions dont les deux principales sont l'articulation entre l'individualisme et le collectif, l'intime et le politique, mais aussi la fureur pulsionnelle qui anime ses personnages, en particulier féminins, des femmes libres qui expriment sans retenue leurs désirs et leur volonté de puissance. Pour nous plonger dans le cinéma selon King Vidor, et alors que le Festival de Berlin lui rend hommage depuis jeudi avec une vaste rétrospective, Jean-François Buret, qui enseigne le cinéma à l'université de Lyon 2 et a consacré de nombreux textes, entre autres, à King Vidor dans les revues Trafic et Cinéma, et Françoise Zamour, maître de conférence en études cinématographiques à l'École Normale Supérieure, où elle donne des cours d'analyse de films et d'esthétique du cinéma, en particulier sur le mélodrame, et co-autrice d'un dense opuscule consacré à King Vidor. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous fera chalouper sur le Satan Tango de Bélatar, enfin en salle en France, plus de 25 ans après sa présentation à la Berlinale en 1994, mais pour l'heure, direction le sud des États-Unis, à la ferme, on fête la récolte du coton.
Yeah.
sont bien des bruits de claquettes que vous entendez. C'est Alléluia, le premier film parlant de King Vidor. On est en 1929. C'est aussi dans l'histoire du cinéma, je crois, le premier à avoir été entièrement post-synchronisé. Mais c'est surtout, et c'est à ce titre qu'il reste dans l'histoire du cinéma, c'est le premier film produit par une major, en l'occurrence la MGM, à se dérouler non seulement entièrement dans un milieu afro-américain, mais avec une distribution entièrement afro-américaine. Qu'est-ce qui pousse Jean-François Buret, un cinéaste texan d'origine hongroise, qui est à ce moment-là au fait de sa gloire, hein, il a signé des chefs-d'œuvre du cinéma muet comme La Grande Parade ou La Foule, qu'est-ce qui le pousse à se battre comme ça pour ce projet? Je crois même qu'il va renoncer à son salaire, alors que dans le cinéma hollywoodien, faut-il encore le rappeler, à l'époque, quand on voyait un acteur noir, c'était plutôt un second rôle, voire un troisième rôle, c'était plutôt un stéréotype comique, ce qui n'est pas du tout là le projet de King Vidor, Jean-François Buret.
Ah, si on reprend les propos de Vidor dans son autobiographie en français, La Grande Parade, il semble que ce soit justement lié à cette origine texane, à cette enfance pendant laquelle il a côtoyé un grand nombre de Noirs dans leur vie quotidienne, dans leur habitudes culturelles, musicales, depuis la toute petite enfance. Et il semble qu'il ait eu le désir très tôt de témoigner de cette expérience-là. Et ce qui est très beau dans l'extrait qu'on a entendu, c'est à quel point d'emblée on sent qu'on est dans une forme d'essentialité, de quelque chose de très très brut. Je vais éviter d'employer le mot primitif parce qu'il pourrait porter à confusion, et les confusions sont fréquentes quand on commence à parler de Vidor à propos d'un film entièrement joué par des Noirs. Mais il suffit de penser au tap dance dans les années 30, c'est-à-dire juste après ce film, à quel point ça va être lissé par le cinéma américain de manière souvent magnifique dans les films de par exemple de Fred Astaire à Ginger Rogers, mais à quel point là le tap dance et le shuffle se donnent à entendre d'une manière absolue, première et du coup très très émouvante.
Alors, même si c'est l'histoire d'un personnage principal qui s'appelle Zek, qui va passer de la damnation à la sainteté et aller-retour dans ce film, comme souvent chez Vidor, notamment dans cette scène, on sent que c'est le groupe qui intéresse Vidor. C'est le cinéaste, il a fait La Foule, je viens de le dire tout à l'heure, mais sa caméra est presque en retrait, observant ce qui se passe à ce moment-là, Françoise Damour.
Oui, c'est quand même un moment où, enfin, en tout cas pour ce film, il y a vraiment une volonté d'ouvrir la narration à l'ensemble d'un groupe, d'une communauté, et à en montrer non pas de façon un peu anecdotique les jeux, les travers. Enfin, c'est la première fois dans le cinéma hollywoodien que des Afro-Américains n'ont pas des rôles comiques, ont des rôles tragiques,
mélodramatiques.
Participent de l'action du mélodrame. Il existait avant un cinéma avec des acteurs noirs qui était généralement réservé à la population noire, avec des cinéastes noirs. Ici, on a un énorme travail qui consiste à faire venir sur l'écran pour tout le monde l'ensemble de cette communauté afro-américaine, et pas seulement comme pittoresque. Pour Vidor, ça n'est pas pittoresque. Et on voit bien, enfin, Jean-Loup Bourget, avec qui j'ai écrit ce petit King Vidor, montre bien comment les deux premières du film, une à New York, une à Harlem, une autre dans le Upper East Side, ont permis en fait aux communautés blanches et noires de découvrir le film en même temps, et comment le film a d'ailleurs donné lieu à des critiques et à des appréciations des deux côtés, ce qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'il s'adressait à l'ensemble de l'Amérique à travers ce film.
Et c'est toujours son grand projet, on va en reparler, filmer l'Amérique dans son entier, avec aussi un aspect documentaire assez passionnant. Je pense notamment à ce moment où la charrette chargée de coton brut arrive à être empaquetée, on va fabriquer les balles de coton, et ça, la transformation de la matière, c'est quelque chose qui passionne King Vidor, Jean-François Buret.
Oui, alors Peut-être qu'on va en parler d'emblée parce que c'est quelque chose qui est important pour comprendre l'homme. Il avait une confession particulière. Il appartenait à ce qu'on pourrait appeler une sorte de secte, la Christian Science, qui
n'est pas la scientologie.
Voilà, exactement. Et qui mettait en avant la prééminence de l'esprit. La matière était une chose secondaire. Tout était esprit. Et tout était, du coup, expression du divin. Ça pourrait donner un cinéma a priori complètement désincarné, absolument abstrait. Et au contraire, cette idée que du coup absolument toute chose et toute chose matérielle exprime le divin, fait que chez Vidor, il va y avoir un poids de concret et de matérialité incroyable et la notion de travail dans ce petit texte que j'avais écrit il y a longtemps un peu général sur Vidor, je mettais en avant le fait que chez Vidor, on ne parle pas du métier comme chez Hawks, par exemple, mais vraiment, on parle du travail, le fait de travailler et de travailler la matière dans Alléluia, c'est très beau les passages dans la Syrie, le moment où on découpe des immenses morceaux d'arbres, ce qui renvoie aussi à l'enfance de Vidor, puisque son père était exploitant, entre autres, de bois. Et c'est une des obsessions vidoriennes qu'il arrive à faire passer dans des films qui sont à chaque fois des paris. C'est aussi une chose que je trouve intéressante à rappeler, qu'il rapproche un peu d'un de ses, plutôt que modèle, ami intime, qui était Chaplin, dont on sait que chaque film était une sorte de nouveau pari par rapport au précédent. Et Vidor, qui était malheureusement pour lui plus dépendant des moyens de production extérieurs que ne l'était Chaplin, a quand même eu au moins dans sa filmographie, 5 grands paris. Et ça commençait par La Grande Parade, puis La Foule, et Alléluia était le troisième. Et il arrivait effectivement à faire passer ses obsessions très intimes, entre autres ce travail effréné sur la matière, dans des films qui étaient des paris et qui, à l'époque, étonnamment atteignaient tu l'as rappelé tout à l'heure, Françoise, Alléluia a été un véritable événement. Moi, c'est en lisant un peu Tag Gallagher à propos de Vidor que j'ai pris conscience à quel point les sorties des films de Vidor à cette époque-là constituaient des événements culturels majeur comparable à la sortie de grands romans, et pas seulement aux États-Unis, mais par exemple aussi en France. On sait que la Revue du cinéma, à la sortie d'Alléluia, en a fait un événement artistique au-delà du seul cinéma considérable.
Filmer du travail, eh bien voilà, du travail, c'est le résultat d'une entreprise collective, pour ne pas dire collectiviste, qu'on entend ici. C'est la fin de Notre pain quotidien en 1934. Je rappelle la séquence fameuse, pour irriguer un champ de maïs qui est menacé par la sécheresse. Un groupe mené par un néo-rural, comme on l'appellerait aujourd'hui, qui s'appelle John Sims, qui est victime de la Grande Dépression, comme tous ceux qu'il a rassemblés dans sa ferme. Eh bien, ce groupe a creusé sous nos yeux une tranchée, un aqueduc pour faire arriver l'eau, creusée à travers les collines, les forêts, la roche, enfin toutes les matières naturelles possibles. Et voilà, le fossé est prêt et l'eau dévale la pente au grand bonheur de tous, qui vont finir par sauter, se rouler dans la boue, se faire traîner par un cheval dans la boue, des scènes complètement délirantes. Et ce qu'on a entendu au début, ce qui est très intéressant, c'est le rythme des pas et des coups de pioche et des coups de pioche et de bêche, ce rythme très très musical qui paradoxalement, Françoise Amour, vient du muet, de cette musique muette dont a beaucoup parlé King Vidor, qui lui faisait diriger carrément ses scènes au métronome.
Absolument. Alors la séquence vient, elle a plusieurs origines. Vidor parle beaucoup de Turksib, un film de Victor Turim sur la construction d'un chemin de fer.
Film soviétique, donc.
Film soviétique qui rattache vraiment Vidor à cette ligne du grand cinéma formaliste, mais lui-même a commencé à expérimenter la direction au métronome avec la Grande Parade. Il s'est servi également de la musique, ça il l'indique longuement dans ses entretiens avec Daoud, sur la bohème, enfin la vie de bohème, en utilisant la musique de l'opéra sur le plateau de tournage. Et pour cette séquence, il a utilisé à la fois le métronome et carrément un percussionniste qui, dans le champ, en extérieur, rythmait absolument les pas. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on fabrique comme ça une musique qui détermine le mouvement du film. Cette musique, elle vient à contre-temps, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, elle vient rythmer d'une autre manière ce que fait la musique en elle-même du film, qui, elle, vient vraiment raconter l'eau qui dévale dans ce canal qui a été creusé. Et en même temps, on a à la fois la question de l'individu et du collectif, où chacun prend la place de l'autre. On a presque une sorte de machine humaine qui s'est déployée pour fabriquer cet objet. Mais on a aussi la relation entre l'homme et la nature, qui est pour moi essentiel chez Vidor. Et on voit bien par exemple comment, à partir du moment où l'eau se met à déferler, ce sont les hommes qui, soit en poussant les pierres, soit en faisant rempart de leur corps, soit en s'installant sous un pont pour empêcher l'eau de couler, ils deviennent nature et ils transforment totalement le cours des choses. Et il y a une vraie foi en la capacité de l'humanité à réinventer la nature, et y compris en allant contre elle.
Une vraie foi aussi en la capacité de l'humanité et de cette Amérique qui est en train de se réinventer. Hein, et on réinvente la démocratie, on retrouve les gestes primitifs des pionniers. Tiens, il y a primitif qui arrive encore dans cette conversation. Mais c'est aussi la grande idée vidorienne, il me semble, de la concrétisation d'une idée. Alors, je ne sais pas si ça vient encore de la Christian Science, mais de l'idée, du principe, voilà, quelqu'un a une idée, on va tout mettre en œuvre pour en faire quelque chose de concret. Et ce qui s'apparente au cinéma, évidemment.
Ouais. Avec le... Chez Vidor, l'idée va s'exprimer immédiatement de façon concrète. Il y a un moment très émouvant dans le film, même si on partage pas du tout les vues religieuses de Vidor. C'est le moment où le premier bourgeon des cultures entreprises par cette coopérative qu'a fondé le personnage principal du film au début, ce premier bourgeon apparaît et tout d'un coup, immédiatement, ça se traduit par une prière collective sur la colline. Il faut signaler au passage que, d'ailleurs, j'ai parlé de l'autobiographie tout à l'heure de Vidor, la Grande Parade. En anglais, c'est A Tree. C'est une référence à une phrase fameuse qui circulait, semble-t-il, à l'époque à Hollywood, qui était de n'allez pas chercher, en gros, des décors naturels très loin. Contentez-vous de filmer ça à Griffith Park, à Los Angeles. Parce qu'un arbre est un arbre, où qu'il soit. Et on se rend compte que chez Vidor, c'est extrêmement ironique, parce que chez Vidor, un arbre n'est jamais l'équivalent absolu d'un autre arbre. Un arbre est toujours un événement Et un bourgeon est toujours un événement, fût-il un pur artifice, puisqu'en l'occurrence, ce bourgeon qui sort de terre est un effet spécial, pour le dire comme ça. Mais ce sont toujours des événements particuliers, les éléments de la nature qui apparaissent à l'écran, que ce soit une colline, un talus, un arbre, un bourgeon. Juste pour revenir un petit peu sur la séquence finale dont on a entendu un extrait tout à l'heure, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que ça ne correspond pas à l'idée qu'on pourrait s'en faire quand on sait que Vidor était à la fois sous influence de Griffith, j'ai parlé de Griffith Park, c'est autre chose, Griffith, le réalisateur considéré comme celui qui a un petit peu cristallisé le langage fictionnel narratif américain au cinéma, et des Russes, comme tu le disais tout à l'heure, et on imagine une scène finale qui va s'emballer, qui va être une espèce d'emballement formel constant. Or, quand on voit la scène, c'est pas du tout ça. La scène fait preuve d'une espèce de rythme souverain qui, d'une certaine façon, prend son temps et exprime en même temps l'accélération des choses, mais parce que le rythme ne se fait jamais chez Vidor uniquement dans l'accolement des plans les uns par les autres, mais aussi à l'intérieur de l'image. Et chaque image de cette séquence finale donne toujours à voir au moins deux ou trois choses qui se passent en même temps. Ça n'est jamais une simplification du réel, et ça donne une scène qui donne à la fois une impression, là aussi, au bout du compte, d'accélération, parce qu'il faut aller vite pour sauver les récoltes, et en même temps de sérénité absolue, ce qui est, je trouve, très impressionnant. Some talk of Alexander and some of Hercules, of Hector and Lysander and such great names as these, but as all the world's great heroes, there's none that can compare.
See any redcoats? No, but the fellow inside was some kind of a green outfit. 54 is a lot of miles without no rum. Shall we risk it? Such great names as these, but as all the world's great heroes, there's none that can compare to the Toro, 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 to the British Grenadier.
Here you. What's the matter?
We ain't busted no laws, have we?
You can sing, can't you?
We haven't got time.
You haven't got time to sing? What'd you come in here for?
Rum.
Where are you headed for?
West.
Doesn't make any difference when a man gets west. Help me get this Indian on his feet and I'll buy you all the rum in the place. This Tonkapot's a singing Indian and he wants to sing. We can't sing to suit him, so he's dissatisfied. Whenever he's dissatisfied, he won't drink anything but rum. Unless we can get him to drink some beer, so he'll get sick, he won't be fit to travel, and he's got to travel with him. So come on, we'll sing some beer into him.
All right, mister, give us the pitch.
Drink to me only with thine eyes, and I will.
Vous écoutez France Culture, plan large sur King Vidor avec Jean-François Buret et Françoise Zamour, et l'homme qui chante et qui invite ses futurs compagnons d'aventure à chanter avec lui pour réveiller dans cette dernière taverne où on peut boire du rhum avant 90 km. Un Indien somnolent, c'est dans un curieux uniforme vert à franges, c'est la première fois que je voyais ça à l'écran, Spencer Tracy, il joue le major Richard Rogers dans Le Grand Passage, film de 1940 qui se passe en 1765, donc c'est un western d'avant la conquête de l'Ouest, ça se passe en Nouvelle-Angleterre, et c'est l'émergence, il me semble, chez Vidor, du surhomme, on n'est pas encore dans l'homme sûr de sa supériorité, très individualiste avec le rebelle, mais voilà, c'est le meneur d'homme, alors concrétisation d'une idée encore, et capacité à traverser les montagnes, la nature, on est presque chez Werner Herzog, hein, ça fait beaucoup penser à Aguirre ou Fitzcarraldo, avec ses baleinières transportées à dos d'hommes pour traverser les collines. Sauf que là, l'objectif, c'est d'aller massacrer un village indien, ce qui, vu d'aujourd'hui, pose un peu problème, a priori. On pourrait se dire, voilà, le western où il s'agit de mater des Indiens. Sauf que ce qui me semble très intéressant, c'est là que ça le rapproche de Werner Herzog, Françoise Zamour, c'est que ce que va montrer King Vidor, c'est ce que la guerre fait aux hommes. Et comment un massacre détruit ceux qui l'ont perpétré.
Absolument. On a beaucoup parlé de violence, de fascisme,
de racisme.
Enfin, on a tout dit sur le Grand Passage, Northwest Passage. Je pense que c'est vraiment un film sur la question du sauvage et du civilisé, et sur la manière dont la violence, et particulièrement la guerre, il l'avait déjà évoqué. C'était déjà là. dans la grande parade, au moment où John Sims devenait fou après la mort de d'un de ses compagnons.
La grande parade qui se passe pendant la guerre
pendant
de 14.
Pendant la guerre de 14, voilà. Et il devenait complètement fou à ce moment-là. Et là, la question de qu'est-ce qu'il reste d'humain, qu'est-ce qu'on peut garder qui ne soit pas sauvage en nous, quand la violence de la nature, mais aussi la violence du combat, vous amène à franchir les limites de l'humanité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont Rogers et ses compagnons ont beaucoup de mal, en tout cas Rogers, a beaucoup de mal à conserver quelque chose d'humain chez ses compagnons.
C'est quasiment Apocalypse Now, quoi.
C'est Apocalypse Now, et on va jusqu'au moment où certains d'entre eux, poussés par la faim, mangent des cadavres, c'est-à-dire accomplissent le geste de la sauvagerie suprême, si on peut dire. Et on comprend bien que c'est là le sujet du film. Je pense que cette espèce d'uniforme étrange entre Peter Pan et je sais pas qui est affligé à Spencer Tracy, c'est aussi une expérimentation de la couleur.
Voilà, parce que c'est son premier film.
C'est son premier film en couleur.
Et c'est un moment où lui-même va devenir peintre, va étudier la peinture américaine pour comprendre la couleur, ce qu'il va exprimer de manière beaucoup plus magnifique, parce que bon, c'est un peu hésitant, il me semble, la couleur dans ce film, dans Romance américaine, Jean-François Buret.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on connaît aussi le film d'après des copies qui sont peut-être pas.
On attend la restauration.
Honneur, la qualité originelle du film. Mais c'est vrai que Vidor a dit lui-même, quand j'ai entrepris ce film en couleur, j'étais pas armé pour la couleur, il s'est mis à peindre pour essayer de vraiment connaître ce domaine qui semblait lui échapper à l'époque et qui poussera très loin. Pour moi, un des plus beaux films en couleur du cinéma américain, c'est, j'anticipe un peu, mais ce sera Guerre et Paix.
Voilà, alors, ça, on va en parler, si on a le temps.
Un grand directeur de la photo couleur qui était Jack Hardiff, mais c'est absolument somptueux. Et à une époque actuelle où on ne peut que... Dans 99% du temps, on évoque le passé ou le futur, enfin, quelle que soit une dimension temporelle autre que la nôtre, en généralement sous une forme achromatique, où les couleurs disparaissent, presque en noir et blanc, c'est très revigorant de voir cette expression du passé en couleur. Oui, cette question de la limite de l'humanité, on la retrouvera même dans un entre guillemets, petit film de Vidor comme L'homme qui en savait trop. Là encore, ça ne s'exprime pas sous une forme...
L'homme qui en savait trop, ça c'est de Hitchcock.
L'homme qui
n'avait pas d'étoile, avec Kirk Douglas, on en a parlé récemment dans Plan Large.
Je me suis trompé, il y a tellement de d'hommes qui dans l'histoire du cinéma, que c'est pas l'homme qui aimait les femmes non plus. L'homme qui n'a pas d'étoile. Mais là encore une fois, ça ne s'exprime pas sous une forme théorique ou abstraite. Vidor, c'est un voyant. C'est vraiment quelqu'un qui voit les choses au sens fort du terme. Et dans Le Grand Passage, on peut avoir, alors peut-être est-ce un peu forcé le film que de dire ça, mais c'est assez étonnant de penser que ce film a été entrepris, a été réalisé en 1939, et qui donne à voir des limites du corps humain, que ça soit dans le massacre ou dans l'extrême dénutrition des personnages à la fin du film, qui, dans ce contexte temporel-là, peuvent évoquer autre chose. Ça paraît un petit peu exagéré de dire ça, mais ça me frappe aussi de voir que c'est le même homme qui, en 1927, dans la foule, donne à voir, certes, ça devait effectivement déjà exister dans la réalité, mais le cinéma américain ne montrait pas des files de chômeurs en 1927. Le film sort début 1928, c'est très étonnant de voir chronologiquement un film qui donne à voir cette réalité-là, qui ne deviendra un drame aux yeux de tous qu'un an plus tard. Donc ça, il y a toujours cette vision chez Vidor très forte, et une vision aussi, une sorte de prévision qui se fera aussi à l'égard de futures états possibles du cinéma. Ça a été un des grands inventeurs, par exemple, du film de guerre moderne avec La Grande Parade, d'une certaine forme de cinéma indépendant avec Notre Pain Quotidien, même de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le méta-cinéma, le cinéma sur le cinéma avec Show People. C'est quelqu'un qui a anticipé des choses en cinéma.
François Zemmour, c'est un innovateur, King Vidor.
C'est un inventeur de forme, ça c'est évident. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse profondément à toutes les innovations techniques. Il a tourné en VistaVision, il a essayé les différents formats.
Il fait du 70 mm dès le début du parlant avec son Billy the Kid.
Absolument. Et Jean Douchel compare à Gans, et c'est une juste comparaison.
Abel Gans, hein, pas Christophe.
Oui. Abel Gans, c'est une juste comparaison dans la mesure où, effectivement, c'est quelqu'un qui pense en images. Et il le dit d'ailleurs, s'il est un auteur, c'est avec sa caméra. Il travaille les scénarios, il raconte comment
il
retravaille.
Il va beaucoup dire que le scénariste, c'est le poids mort dont il faut se débarrasser le plus vite possible, ce qui est assez faisable dans le muet, beaucoup plus compliqué dans le parlant.
Il dit le contraire de ce que beaucoup de gens disaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il ne débine pas du tout les procédés techniques à la langue ou même à la houe, c'est-à-dire il y a rien de mieux que le vieux format un peu carré noir et blanc. Au contraire, il va peut-être baisser dans ce que tu disais, la VistaVision et tout ça. Et en revanche, il dit il relativise beaucoup l'importance du scénario et du scénariste. Ça faisait assez peu à l'époque.
Il le fait surtout dans la période muette. Oui. Après, il retravaille les récits, il réintervient sur les scénarios, y compris pour Guerre et Paix. Il a pas mal retravaillé, donc quand même, il a compris qu'il fallait avoir une histoire solide pour la tournée, malgré tout.
Where are you?
Hi, stranger. You look just about the same to me.
You have me at a disadvantage. I can't see what you look like. But I can imagine. Hey, give me that light. Let's see what I've been missing.
Keep away.
Have you grown any? I'll bet you filled out some.
Keep your hands off. Keep your hands off me.
Lick me, little devil!
That's what Bob tells me, especially when he uses a bullet developed by Brannicky.
Oh, that's that ballistic man from Leipzig, Germany.
That's right.
Nous sommes au début de Robbie Gentry, film de King Vidor en 1952, La furie du désir en français, excellent titre français pour une fois, c'est pas souvent dans les traductions de films américains. Nous sommes devant un bar dans les marais du sud des États-Unis. Buck Tuckman, qui est joué par Charlton Heston, revient d'Amérique du Sud. Il se fait siffler par une femme, déjà ça commence bien. Robbie, qui est joué par Jennifer Jones, et comme ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus et qu'il fait nuit, mais avec sa lampe de poche, il va essayer de voir un peu comment cette jeune femme qu'il avait connue enfant s'est développée. Have you grown any? Est-ce que ça a poussé tout ça? C'est des dialogues complètement fous. Il va essayer de l'embrasser, elle le repousse tout en l'acceptant. Voilà, c'est très compliqué les rapports entre les hommes et les femmes chez King Vidor. On aurait pu passer un extrait un peu semblable dans Le Rebelle, son film le plus connu, hein, évidemment, sur cet architecte intransigeant, sûr de son idée, réussissant parfois à les imposer, et qui a une relation tout aussi compliquée avec une femme. Ce qui est très intéressant chez King Vidor, et vous l'avez bien noté, Françoise Amour, dans votre livre avec Jean-Loup Bourget, c'est comment la femme se masculinise quand il s'agit d'exprimer son désir. La femme au fusil, en pantalon, c'est la figure favorite, il me semble, de King Vidor à ce moment-là de sa filmographie.
Absolument, soit au fusil, soit à la cravache.
Voilà,
adore aussi la cravache.
Et généralement, les hommes ont des marques sur le visage au minimum après avoir rencontré une femme.
Absolument, et l'amour est violent, le désir est violent, mais Vidor, sa force pour moi, c'est sa capacité à exprimer, à montrer de façon très provocante, souvent,
et frontale, ouais.
Le désir féminin. On va retrouver ça dans Duel au soleil.
Avec toujours Jennifer Jones.
Et Jennifer Jones est le vecteur extraordinaire. C'est un magnifique vecteur du désir féminin chez Vidor. Mais c'est vrai aussi pour Patricia Neal dans Le Rebelle. Et il y a quelque chose d'une chorégraphie du désir. Il faut pas oublier aussi que quelques scènes de Vidor, notamment dans Le Rebelle, la première scène d'amour entre Patricia Neal et Gary Cooper, à savoir Howard Roark, dans le roman d'Ayn Rand, est un viol. Et il y a quelque chose de très complexe dans la manière dont Vidor joue à la fois du consentement et du non-consentement.
Avec des ellipses dont on se demande toujours vraiment ce qui se passe dans l'ellipse.
Quoi. Absolument, et il chorégraphie complètement ces moments. On retrouve d'ailleurs la première relation entre Bo Tackman et Jennifer Jones dans Ruby Gentry. Quelque part aussi du côté de... On ne sait pas trop si c'est un viol ou si c'est vraiment une relation consentie. Quoi qu'il en soit, le désir, une fois qu'il est exprimé par la femme avec des attributs souvent masculins, très forts et qui relèvent de la puissance, eh bien la relation sexuelle, la relation érotique, passe par ce jeu de puissance, d'affrontement des puissances.
Et qui se passe généralement, d'ailleurs, ce désir physique dans des décors extérieurs. On parlait du rapport avec la nature. Il y a dans ce film une scène de marée qui est aussi forte que celle de Alléluia. D'ailleurs, très curieusement, je pense que c'est le cinéaste qui a le plus filmé des marées. Il a filmé toute la géographie de l'Amérique. Hein. Je pense qu'il a, c'est là encore le cinéaste qui a le plus voyagé à l'intérieur même du pays. Mais la figure du marée, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour lui, Jean-François Buret?
Là encore, on peut éventuellement revenir à l'autobiographie. Vidor disait que à l'est du Texas, je crois, les marais étaient très présents. On voit bien que dans ces films, c'est une sorte de gigantesque métaphore visuelle qui peut jouer de façon très différente selon les films, mais qui a souvent un rapport à l'expression ultime des pulsions et des passions. C'est quand même souvent un lieu où la mort arrive, et une mort qui est souvent en rapport avec une passion amoureuse antérieure. C'est vrai que je vois pas d'autres cinéastes qui aient élu ce type de paysage et qui l'aient à ce point retravaillé de film en film, mais je pense que ça a à voir avec cette importance très grande et cette concrétude très grande chez Vidor de toutes les manifestations naturelles, ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, on parle toujours, par exemple, à propos de La Grande Parade, de ce très beau moment. C'est un des plus grands cinéastes aussi des scènes de retrouvailles, de retour. Vidor, c'est son côté mélodramatique, mais au bon sens du terme. Il y a des scènes de retour et de retrouvailles bouleversantes, et on cite toujours celle de la Grande Parade, avec ce petit personnage sur cette colline qui apparaît de loin, et que la jeune femme qui est amoureuse de lui le voit progressivement arriver. Mais on oublie de signaler que cette jeune femme, pour le rejoindre, va glisser dans une sorte de petit ravin terreux, et ce moment est au moins aussi bouleversant que le moment toujours évoqué de la colline. C'est-à-dire que chez Vidor, le lieu et le lieu naturel devient toujours un moment, un endroit d'expression des affects à leur maximum, même quand il s'agit d'un moment très court. Et les marais sont effectivement un de ces lieux récurrents chez lui.
Faste, 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 faste!
Faste, Nitka!
As we ride in the troika, you and I, stars are twinkling up in the sky. Train comes sweet and like a soft and low, sleigh bells twinkling across the snow.
As we ride in the tricycle and Come on, kid, it's your turn.
Howdy, howdy, howdy. I like it up and low. Play bells, thinking you want to know.
I'll be just a kid, and let me have your play. Hey, when I'm on the knees,
hey, oh, you got to give me a little shot, hit me, ask me, hey, hey, when I'm gone, you'll miss me a little shot, miss me, man, hey,
oh, you got to give me a little shot, hit me, man, hey, when I'm gone, you'll miss me a little shot, miss me, man, hey.
Vous écoutez France Culture, plan large sur King Vidor avec Jean-François Buiret et Françoise Zamour. Et on a beau entendre parler anglais, nous sommes en Russie, nous sommes dans la neige, on part à la campagne et deux troïkas courent dans la neige l'une à côté de l'autre. Et on joue à passer de l'une à l'autre en riant beaucoup. Et le rire qu'on a entendu, ce rire féminin, c'est celui d'Audrey Hepburn qui joue Natacha dans le film. Alors c'est Guerre et Paix, on en est en 1956, dernier grand film de King Vidor à Hollywood, avant Salomé, la reine de Saba, qui est un peu plus compliqué. Sauf que je dis Hollywood, mais c'est pas Hollywood, c'est l'Italie. C'est une production d'Ino de Laurentiis, même s'il y a Audrey Hepburn et Henri Fonda dans le film. Un film avec des batailles extraordinaires. Enfin, c'est le côté Griffith qui revient là chez King Vidor. Sauf que, il me semble, ce qui l'intéresse, c'est plutôt Audrey Hepburn. Hein. Il y a une manière de filmer ce visage extrêmement moderne d'Audrey Hepburn à cette époque-là, et comme si il voulait resserrer, voilà, le plan et palper ce qui se passe presque sur son visage et son évolution dans le film. Jean-François Buiret.
Il y a une très belle scène à l'intérieur d'une calèche où le visage d'Audrey Hepburn est plongé dans une semi-pénombre qui crée une sorte d'écrin visuel qui fait qu'effectivement, d'une manière qui semble en même temps tout à fait naturel par rapport à la situation, ce visage devient l'objet de toutes les attentions du film. Et on retrouvera ça dans certains plans de visage d'Audrey Hepburn derrière une fenêtre recouverte de pluie. Je pense qu'il y avait une double fascination chez Vidor pour l'actrice et pour le personnage qu'elle incarne, dans le personnage de Natacha, qui est donc évidemment issu du roman de Tolstoï, qui exprime beaucoup des idées fixes de Vidor à propos du comportement humain. Par exemple, ce qui est assez rare finalement, en tout cas dans le cinéma américain de l'époque, l'idée du personnage décevant, en tout cas qui peut agir à un moment donné d'une manière très contraire à ce qu'on pourrait attendre de lui en termes d'attitude morale. Et souvent, ces dévoiements, ces tournants, bon, l'idée de tournant, de revirement est importante chez Vidor. Ça a été son premier long métrage qui s'appelait Le Tournant, et il voulait, à la fin de sa vie, il voulait refaire un film qui se serait appelé Le Tournant, qui n'a pas pu faire. Il était fasciné à la fois par l'idée de la ligne absolument droite que serait un idéal de conduite à la vérité, et puis le fait qu'une vie était en même temps une suite de tournants, de revirements, et parfois d'attitudes extrêmement désappointante pour le spectateur, puisque bon, le personnage de Natacha, à un moment donné, tombe amoureuse d'un amour purement érotique pour le personnage joué par Victoria Gassman, et trahit d'une certaine façon l'amour éthéré, pur qu'elle éprouve pour le prince André, joué par Mel Ferrer.
Et un autre personnage qui a beaucoup de revirements dans le film, c'est le personnage de Pierre, donc joué par Henri Fonda. Alors, vous terminez votre livre, Françoise Zamour, avec Jean-Loup Bourget, sur un chapitre qui s'appelle La tentation de l'autoportrait. Alors, c'est pas évident à première vue de voir Guerre et Paix comme le film le plus autobiographique de King Vidor, et pourtant c'est ce que vous développez en disant qu'en fait il était très déçu de l'interprétation d'Henri Fonda, parce qu'il aurait voulu un acteur surtout qui lui ressemble, donc lui il aurait voulu Peter Ustinov, et il s'est extrêmement projeté dans ce film.
Ah oui, il a vraiment, on avait l'impression, d'ailleurs en voyant la bande-annonce du film, on a l'impression que Tolstoï a écrit Guerre et Paix pour que Vidor puisse le filmer.
Voilà, il dit la préparation de ce film a commencé il y a très longtemps, quand Tolstoï a commencé à écrire le livre. C'est son scénariste.
C'est son scénariste, et en fait, il y a chez Vidor une vraie tentation de l'autoportrait, notamment dans toute la période de l'après-guerre.
Le rebelle, évidemment,
la question de l'artiste, la relation à l'action en général, les questions métaphysiques, le questionnement sur la morale, le rapport à l'autre, la relation à l'homme d'action, ce sont les questions qui travaillent Guerre et Paix. Et la création de l'opposition entre Mel Ferrer et Henry Fonda, entre Pierre et le prince André, fonctionne vraiment là-dessus. Natacha, dit Vidor, c'est l'anima du film. Elle lui donne la vie, littéralement. Et effectivement, elle est tout le temps en vie, elle est joyeuse et en même temps, elle est dans la folie érotique. Sur les personnages masculins, il y a une très forte projection quand même de Vidor comme artiste, comme cinéaste, comme celui qui aussi hésite à faire, parfois est empêché, sur la question de l'artiste et de est-ce que on est artiste quand on tourne ou est-ce qu'on est tout le temps artiste, y compris quand on a une idée. Tout cela me paraît préfiguré quand même la fin de la carrière de Vidor où il va tourner tout seul, des films presque abstraits, tout en restant un cinéaste, vraiment, en restant un auteur américain, de même qu'il s'était un peu dépeint dans cet Howard Hawks qui, pendant des années, dessine des bâtiments qui ne seront pas construits. Et il y a quelque chose de très fort dans cette relation qu'il a, l'hésitation, à l'action ou pas à l'action. Évidemment, Guerre et Paix lui a énormément parlé. C'est ce qui fait la force du film, je pense.
François Buret et Françoise Zamour, on se quitte sur la chanson de Duel au soleil. Il aurait tout de même été dommage qu'on n'entende rien de ce film si vidorien, même s'il y avait beaucoup de Selznick dedans. Mais ce film Duel au soleil, nous en avions parlé longuement dans Plan Large. C'était le 17 mars 2018 avec Pierre Berthomieux à vos podcasts. King Vidor, le livre que vous avez co-signé Françoise Zamour avec Jean-Loup Bourget, est publié aux éditions Vrin. Si vous êtes à Berlin ces temps-ci et vous y serez, Françoise Zamour, ne ratez pas derrière la compétition international, sélectionné par le nouveau directeur artistique de la Berlinale, Carlo Chatrian. Ne ratez pas la rétrospective en 35 films consacrés aux cinéastes avec des copies restaurées, ça va être magnifique. Mais si vous n'y êtes pas et que vous lisez soit l'allemand, soit l'anglais, vous pouvez toujours vous procurer le livre richement illustré que publie pour l'occasion les éditions Bertz und Fischer Verlag, avec notamment un texte signé par vous, Françoise Zamour, et consacré bien évidemment au mélodrame vidorien. On trouve aussi encore, pour creuser la question, chez Cinéma Action, un ouvrage collectif, King Vidor, Odyssée des Inconnus, avec notamment cette fois un texte de vous, Jean-François Buiret, King Vidor, un esprit d'escalier. Quelques rétrospectives à vous signaler un peu partout en France, l'actualité est très riche. Pabst est à l'Institut Lumière à Lyon, en compagnie d'Oliver Stone, drôle de mélange. À la Cinémathèque de Toulouse, on peut voir tout Konchalovsky, après avoir bien sûr réécouté le plan large que nous lui avions consacré en avril dernier, en même temps qu'une rétrospective Jean-Daniel Paulet, en attendant attendant la rétrospective, Paulet donc va consacrer au grand cinéaste la Cinémathèque française. Il y aura aussi des sorties en salle, des DVD, des livres. Grande actualité Paulet et Jean-Daniel Paulet dans Plan Large, ce sera le 14 mars. Quant à Paris, le Forum des images offre une carte blanche posthume à Éric Rohmer à l'occasion de l'édition chez Capricci sous la direction de Noël Herp d'un volumineux et passionnant recueil de ses chroniques de cinéma, 200 textes, parus entre 1948 et 1959 sous le beau titre du sel du présent. Donc au Forum des images, il y aura 13 films parmi ceux que défendait le critique et pas encore cinéaste. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de film de King Vidor sur lesquels est écrit Éric Rohmer. Évidemment, King Vidor, c'était plutôt dans les cahiers du cinéma le dada de Luc Moulet et Michel Delahaye. Ceci rappelé, il est temps de rejoindre le pays d'origine de la famille Vidor, la Hongrie, sa plaine battue par le vent et la pluie et ses villes désertes. Bah oui, forcément, tout le monde est au café.
Két szelet kevert. És egy csomag cigarett. Deciről volt szó.
Bocsánat. Na, lóduljanak.
Bátorkodom emlékeztetni a cigarettán.
Bocsánat, elfelejtettem.
Megtudhatjuk, mi a jamulatságos?
Semmi. Bocsánat.
Te hallod ezt? Mi ez? Valami gép? A lámpák? Valaki énekel? Ki meri dúdolni? Csend legyen!
C'est un film mythique, un monument du cinéma moderne, une œuvre monstre et un film monde. Jusqu'à présent, peu de spectateurs, à vrai dire, pouvaient se targuer de l'avoir vu en entier, ni même de l'avoir vu tout court. 2 ans de tournage, 2 ans de montage pour 7h20 de pluie, de boue, de murs décrépits et de toiles d'araignées qui auscultent des hommes et des femmes abîmés dans des paysages tout autant désolés par une météo apocalyptique. Présenté comme ça, évidemment, ça peut faire peur. Or, le tango de Satan, Chatan Tango dans le texte, est une splendeur noire, un voyage sans retour aux confins de la condition humaine, un de ces films dont on ne revient jamais. Pour vous citer, Mathieu Macheret, c'était dans votre critique du Monde, et joie, bonheur, plus de 25 ans après sa présentation au Festival de Berlin, l'opus Magnus de Bélatar trouve enfin, depuis 10 jours, son chemin dans les salles françaises, dans une splendide restauration numérique supervisé par le poète ténébreux et inconsolé lui-même. Mieux vaut tard que jamais, si vous me permettez ce jeu de mots tout à fait lamentable, Mathieu.
Il faut bien rigoler un peu, ce qui n'est pas forcément évident dans Chatan Tango, ou Satan Tango, allez, disons-le comme ça. N'empêche que peu de films méritent autant que celui-ci, le terme d'expérience. Hein, c'est une expérience à part entière. Le film ne peut pas être simplement regardé du coin de l'œil, il faut s'y engouffrer, il faut plonger dans son cours labyrinthique, lancinant. D'abord parce que voilà, le film affiche une durée assez inhabituelle, vous l'avez dit, 7h30, quoique à l'ère du binge-watching, c'est peut-être pas aussi impressionnant, mais aussi parce que chacun de ses plans ressemble à s'y méprendre, à ce que le poète Stéphane Mallarmé écrivait au sujet du tombeau d'Edgar. C'est un calme bloc ici bâchu d'un désastre obscur. Et ensuite, parce que cette œuvre est charnière dans le travail de Bélatar, c'est celle où il a pour la première fois lâché la bride à son écriture singulière, à la fois épique et sensorielle, fondée sur la longueur des prises, une écriture qui modèle dans un noir et blanc marmoréen une temporalité extensive et vénéneuse qui n'appartient qu'à lui. On a pu voir parfois en Bélatar une sorte d'héritier putatif d'un d'un autre maître du temps, Andrei Tarkovski, et d'un cinéma de l'immanence qui semble calé comme ça sur l'horloge interne des choses et des êtres. Et au rang de ses influences, on peut citer aussi peut-être une autre figure tutélaire hongroise, celle de Miklós Jancsó, dont les plans séquences étourdissants de sophistication sont restés eux aussi dans la légende. Mais ce pourquoi Satan Tango est un film inouï réside évidemment aussi dans ce qu'il raconte. C'est une fresque monumentale, on l'a dit, qui prend un beau petit chapelet d'heures pour raconter rien moins que la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde, celle d'une ferme collectiviste devenue un cloaque sans nom et à travers elle d'un modèle soviétique qui, au début des années 90, s'effondre sur lui-même. On a affaire à un petit groupe de villageois amers et opiniâtres qui ourdissent ardemment des complots les uns contre les autres pour filer à l'anglaise avec la recette agricole de toute une année. Mais tous ont peur du retour de l'un des leurs, qui s'appelle Jérémias, ce qui veut dire Jérémie en hongrois, c'est déjà un nom de prophète, et on hésite à savoir si celui-ci est en effet la résurrection du prophète de l'Ancien Testament, ou un agitateur anarchiste qui est prêt à poser des bombes, ou encore le diable en personne qui serait venu faire danser un tango infernal à toute cette mauvaise troupe. Et dans son sillon, les villageois, comme derrière un joueur de flûte de Hamelin, vont franchir le pas, sortir de cette ferme qui était leur cosmos et passer derrière le rideau des mythes collectivistes fatigués pour voir peut-être ce qui s'y cachait. Alors voilà, on a entendu, là c'est les villageois qui marchent, qui s'aventurent dans ce vaste monde. Donc Satan Tango raconte, on a dit, la fin d'un monde, mais aussi son lendemain, c'est-à-dire la gueule de bois qui suit la grande beuverie de l'apocalypse. Et ces villageois, souvent grotesques d'ivrognerie, s'en réservent une belle de beuverie dans une scène assez magnifique où ils dansent jusqu'à l'aube au son de l'accordéon. La splendeur du film est liée à plusieurs choses. D'abord au souffle grandiose de l'écriture de Bellatar, avec ce plan comme unité constitutive poussée dans les derniers retranchements de l'espace et du temps, portée souvent par de sublimes mouvements de caméra et suspendue aux épiphanies du réel comme aux performances des acteurs. Apocalyptique, son style l'est, il faut le dire, en diable, puisqu'il revient à l'étymologie même du terme qui recouvre la notion de révélation. L'apocalypse s'est révélé et la scène chez Bellatar se révèle progressivement par le travail de la durée. Énigmatique, opaque, le plan se donne petit à petit, se modèle sous nos yeux comme un bloc de glaise qui prendrait forme. Et de Limon, il est particulièrement question dans cette plaine perpétuellement plongée sous la pluie, puisque le sol boueux ne s'attache pas seulement au godillot des personnages, mais presque aux quatre coins de l'image qui semble elle-même modelée. Film de boue et de vent, Satan Tango regarde l'humanité sans idéalisme ni transcendance, depuis les tréfonds de ses turpitudes, précisément comme un gisement de boue sous l'angle d'un contact passionnel et viscéral avec la matière. On peut trouver le regard de Bellatar désespérément sombre, pourquoi pas nihiliste, et on peut le comprendre puisqu'il a vécu lui-même une sorte de fin de l'histoire, si on peut dire, mais sa générosité est ailleurs, notamment dans un récit en toile d'araignée qui déploie ses fils dans toutes les directions et ne cesse de tourner autour des mêmes événements perçus selon différents points de vue. Et sous son apparente austérité, le film regorge d'un romanesque dont le détail, l'arborescence, se révèle à mesure que se dissipe la brume du temps. Et derrière ses allures ténébreuses, son objet le plus précieux n'est autre que cette petite étincelle de vie souffrante que la caméra surprend dans cet abîme de la nature humaine où notre regard est souvent invité à plonger.
«
Merci Mathieu Macheret, Satan Tango est en salle et croyez-nous, ne ratez ça pour rien au monde. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Amandine Grévose. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard qui part sous d'autres cieux. Merci pour tout et à très vite Séverine, avec aussi Vivien Demeyer qui lui rejoint l'équipe et donc bienvenue. La semaine prochaine, Plan Large sur Catherine Hepburn, émission qui avait été ajournée pour cause de décès de Kirk Douglas. Nous serons en compagnie de Marguerite Chabrol, qui vient de lui consacrer un passionnant ouvrage, et de Charlotte Garçon. Et puis en fin d'émission, Michel Simon nous racontera depuis Berlin ce que donne la Berlinale cette année. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présentée par Christine Bernard.